bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. Cette semaine, nous allons tâcher de vivre l'expérience du tout. Waouh ! La méditation et la musique sont deux points d'entrée qui nous permettent de ressentir de manière organique notre appartenance à un collectif. Notre mise en réseau fut spirituelle avant de passer par la toile. Point de wifi, mais des prières. Point de hub, mais de la trance. Point de serveur, mais des instruments de musique. Et point de fibre optique, mais le courant des torrents de montagne. À travers l'amitié de Romain Rolland et de Freud, nous allons voir comment l'inventeur de la psychanalyse, pourtant réfractaire à toute forme de spiritualité, fut touché par un mot qui lui ouvrit les portes de sa perception. Enfin, dans le panthéon égyptien, nous verrons que les figures majeures sont des femmes. Nout et Isis n'ont pas attendu Aragon pour proclamer que la femme est l'avenir de l'homme. Allez, c'est parti.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Ah. My heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing. Bye-bye sailing.
Bobby Darin, Beyond the Sea. Vive le jazz sur France Inter en ce samedi après-midi de mi-novembre. Les Égyptiens, comme beaucoup de civilisations de l'Antiquité, tirent tout leur enseignement de l'observation de la nature. En ces temps anciens, l'environnement minéral, végétal et animal leur est autrement important qu'à nous qui sommes nés dans du béton. Mettez-vous dans la peau d'un scribe qui rêvasse au bord du Nil. Adossez-vous contre un palmier et méditez en regardant s'écouler le flot limoneux qui amène la fertilité. Soudain, vous êtes embêté par un truc qui vous gratte le dos. Vous vous retournez pour écarter l'insecte qui vous chatouille. Ça n'est pas un insecte. De l'écorce arrachée du palmier s'échappe une sous-couche fibreuse qui vous chatouillait l'omoplate au gré du vent. Vous l'arrachez pour retourner à votre méditation, mais elle se distend. Vous insistez, vous finissez par y arriver. Alors vous avez dans les mains un carré de fibres tressées comme sortie d'un métier à tisser. Les fibres entrecroisées dans un ordre régulier forment un tissu végétal, et plus vous le tirez, et plus vous pouvez observer la perfection de l'entrelacement des fibres formant des petits carrés. Vous n'avez plus qu'à copier ce modèle naturel avec des fibres de laine, et voilà comment l'homme inventa le tissu. Il avait le modèle sous les yeux, dans la nature, qui se cachait sous l'écorce des palmiers. Cette imitation naturelle se pratique encore, et de nos jours, elle s'appelle le biomimétisme. Maintenant, vous êtes toujours au bord d'une île. Et vous portez votre regard sur un rocher émergeant au milieu des eaux. Autour de lui, les eaux tumultueuses se séparent en l'aspergeant d'écume. Vous le fixez immobile au milieu du chahut fracassant. Et peu à peu, le mouvement des flots qui dessine une spirale autour du rocher vous absorbe, vous envoûte, vous hypnotise. Votre conscience se modifie jusqu'à ce que vous soyez le rocher. C'est l'expérience de la minéralisation que décrit Rousseau dans Les rêveries du promeneur solitaire. La nature comme expérience du tout, la nature comme objet de méditation suprême, nous fait sentir que nous appartenons à un seul et même mouvement qui englobe toutes les créatures et les planètes, un seul mouvement qui s'appelle la vie.
You go your way. I'll go your way too.
Que vous êtes un ami de Romain Rolland, puis-je vous demander de lui transmettre l'admiration respectueuse d'un inconnu ? Cette requête date de 1922. Elle émane d'un des plus célèbres intellectuels de la planète qui, avec Marx et Nietzsche, instaure une révolution majeure dans l'Occident en le plongeant soudain dans un abîme de remise en question dont le contre-coup ne cesse de se manifester jusqu'à nous donner aujourd'hui une figure tragicomique à la tête du plus puissant État du monde. Cet admirateur qui souhaite transmettre son admiration et entrer en contact avec le prix Nobel de littérature 1916, non pas Bob Dylan, mais Romain Rolland, cet admirateur inconnu n'est autre que Sigmund Freud.
Rolland et Freud se rencontrent autour d'un thé, autour d'une bière.
Bonjour Sigmund, je suis un idéaliste, humaniste, et je souhaite la communion entre les hommes.
Bonjour Romain, je suis un médecin neurologue, fondateur de la psychanalyse, et mon inconscient pense à ma mère.
Rolland saluant Freud, je cite, « le pilote qui, pareil à ses grands ancêtres phéniciens, le premier s'aventura dans la circumnavigation du noir continent de l'esprit. » Question admiration, Freud, de son côté, n'est pas en reste. Il déclare notamment, dans une lettre de 1931 adressée à Rolland, « je puis vous avouer que j'ai rarement aussi vivement ressenti ce mystérieux attrait d'un être humain pour un autre qu'en ce qui vous concerne. »
Et que se disent-ils ces deux hommes ? André, racontez-nous.
Les deux hommes ont en commun d'avoir été atterrés par le grand massacre de 14-18 entre les nations dites les plus civilisées du monde. Le psychanalyste va même puiser chez l'écrivain des notions qui résolvent les lacunes du système analytique qu'il est en train de mettre en place. Romain Rolland est à fond sur l'Inde. Il pense que c'est par là que l'Europe peut régénérer son âme perdue. Il prépare son essai sur la mystique de l'Inde, ses grands penseurs, et il emploie une expression qui va frapper Freud, le sentiment océanique. Dans la littérature des Védas de l'Inde ancienne, les métaphores aquatiques sont courantes. Ainsi, le couple Jiva-Brahman, l'un représentant la conscience personnelle, l'autre la conscience suprapersonnelle, ce couple est associé au couple vague-océan. La vague, a priori ignorante, se croit indépendante. Elle pense monter de son propre élan et retomber de sa propre faiblesse. Mais la même vague, éclairée, se sent une partie du tout et se laisse absorber par la masse liquide avec laquelle elle fait corps, renouvelant constamment sa matière et sa forme. Il s'agit pour chaque vague moins de mourir dans l'océan que de s'épancher dans les autres vagues et s'enfler d'elles en retour. Toutes traversé par le perpétuel flux et reflux d'un même soulèvement. Le salut est dans l'abolition de toute frontière entre soi-même et l'autre.
Mer belle à peu agitée, est de Cabrera, pas d'avis de coup de vent, mer peu agitée,
on grimpe sur la vague.
Prends ta planche de surf, Dédé.
Nous voici embarqués. Ce n'est pas un voyage d'agrément, mais un voyage pour se perdre. La mer est vivante. Elle a toute une garde-robe et dans son fourreau pourpre, elle nous invite à danser la valse avec elle quelques mesures avant de changer d'avis et nous envoyer sur les roses.
Nous dansons en suivant le rythme de l'océan et la musique de l'immensité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milliards.
On est loin au milieu des vagues. Elles occupent leur temps à filer, à tisser, à chanter. Il leur arrive de laisser flotter leurs chevelures, de nager de ci, de là, avec les tritons et les dauphins.
Nous sommes la vague, la terre et l'océan, et nous ne faisons qu'un avec l'univers.
Notre planète porte un nom usurpé. Elle devrait s'appeler la planète océan.
Romain Rolland, êtes-vous d'accord ?
J'ai souvent, au long de mes œuvres, repris ces images de la rivière et de la mer. Ce ne sont pas pour moi des métaphores. Ce sont les voix du fleuve intérieur.
Et nous nous laissons emporter par la voix du fleuve intérieur.
Je suis la voix intérieure. Suivez-moi.
Inter. Les routes de la musique, André Manoukian.
Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les certitudes de la civilisation occidentale ont volé en éclats. Le désir de comprendre la folie meurtrière qui s'est abattue sur le monde pousse certains intellectuels vers l'Orient. Romain Rolland en fait partie. Il dévore toute la littérature consacrée à la sagesse indienne. Il découvre ainsi les écrits de Ramakrishna. Ramakrishna est né en 1836, c'est un illuminé hindou au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il a vécu l'expérience de l'illumination, la révélation sensorielle de la puissance du cosmos. Ramakrishna raconte comment un jour, ayant cherché en vain une vision de Kali, la déesse mère, exaspéré à l'idée de ne pas y arriver, se saisit alors d'une épée qui pendait dans le sanctuaire de la déesse et alors... Les bâtiments dans leurs différentes parties, le temple et tout le reste s'évanouirent à mes yeux. Je vis à leur place un océan de conscience sans limite, infini, éblouissant. Aussi loin que pouvait aller mon regard, j'apercevais de brillantes vagues qui surgissaient de tous côtés et déferlaient sur moi, prêtes à m'engloutir. Je tombais inanimé, en moi, un flot de félicité ineffable, tout à fait inconnu, m'inondait et je sentis enfin la présence de la mère divine.
La mère divine est apparue.
Ma sainte mère n'est nulle autre que l'absolu. Elle est à la fois l'un et multiple et l'au-delà de l'un et multiple. Ma sainte mère dit : je suis la mère de l'univers, je suis le Brahman du Vedanta, venez à moi. Ou par l'amour, ou par la connaissance, ou par l'action. Et je vous conduirai à travers ce monde, océan de toute œuvre, et je vous donnerai la connaissance de l'absolu. Évangile de Sri Ramakrishna.
Ramakrishna dit : les fois ne sont pas Dieu, mais juste des chemins. Amen. Peace and love. Inshallah. Alléluia.
Ramakrishna était l'un de ses maîtres spirituels, l'un de ses gourous, comme l'on dit en Inde, mais évidemment avec le sens réel qu'a le terme gourou là-bas, c'est-à-dire le maître, mais en même temps l'ami, celui qui guide sur le chemin vers le divin.
Nous tentons de suivre Ramakrishna qui suit Kali, la déesse mère.
Cours, cours si tu veux la rattraper, cours!
Mais non, tranquille, il faut juste s'asseoir sur le chemin de l'âme. Regarde, le voilà, Ramakrishna.
Romain Rolland va nommer cette expérience de fusion avec le tout « sentiment océanique ». Et cette expression résonne très fort chez Freud, comme s'y s'entrouvait enfin pour lui la porte d'un monde mystique qui lui était resté fermé, ainsi que la musique.
Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu. Il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato. Ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia. La notte magica e sei tutta mia. Splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà. Sembrerà un inganno, con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai. Se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai, quando c'è buon vento, potrai incontrarmi là nel mare in luce. Mi racconterai che quel mare in luce non finisce mai.
Rafael Gualazzi, Un mare in luce. Freud, de son propre aveu, n'entendait rien, ni à la mystique, ni à la musique. Oui, l'homme qui va inventer les outils pour décrypter notre psychisme, l'homme qui va éclairer les souterrains labyrinthiques en se servant des lampes à huile de héros mythologiques grecs, l'homme qui va déchiffrer les pratiques magiques des sociétés premières, n'entend rien à la mystique, de son propre aveu. Voilà pourquoi l'œuvre de Romain Rolland le frappe. Jean-Christophe, son roman « Fleuve » publié en 10 volumes de 1904 à 1912, qui contribua sans doute grandement à l'attribution du prix Nobel de littérature, Jean-Christophe est un musicien allemand qui incarne l'espoir d'une humanité réconciliée, notamment en montrant la complémentarité de la France et de l'Allemagne. Il est aussi un héros romantique, comme le Werther de Goethe, qui doit passer par une série d'épreuves, les cercles de l'enfer, maîtriser ses passions avant de dominer sa vie et d'atteindre à l'harmonie universelle.
On s'installe dans le canapé pour lire des passages de Jean-Christophe de Romain Rolland.
Christophe retient son souffle pour qu'il soit plus silencieux encore. Et aussi parce qu'il est un peu ému. Le cœur lui bat en appuyant le doigt sur la touche. Quelquefois, il le relève, après l'avoir enfoncé à moitié, pour le poser sur une autre. Tout à coup, il y en a qui tintent. Il y en a d'autres qui grondent. Ce sont comme des esprits. Ainsi, l'enfant se promène dans la forêt des sons et il semble autour de lui des milliers de forces inconnues qui les guettent et l'appellent pour le caresser, pour le dévorer.
Le héros du livre caresse les touches de son piano et convoque les esprits pour partir en quête d'une sagesse. Comme André, quoi. Et comme Romain Rolland.
Je n'ai jamais oublié la fontaine sacrée de la vie intérieure, la musique. Tous ces chantres inspirés me font toucher le fond commun de l'âme humaine, l'unité. Et c'est ce contact que je voudrais communiquer à tous par mes écrits. Au milieu du torrent qui passe, dans la mêlée du monde, il faut que tous les peuples arrivent à comprendre qu'ils ne sont tous qu'un seul peuple, qu'un seul homme.
Et les paroles de Romain Rolland se transforment en musique.
Romain Rolland se met au piano et joue.
Cette musique dit
« Nous sommes un seul peuple, nous sommes un seul homme ».
À méditer, sans doute Freud trouve dans le récit du chemin initiatique d'un homme vers la lumière le pendant de ses investigations dans les ténèbres de l'âme humaine, lui qui n'a fait que tenter de nommer les pulsions soumettant l'homme à ses démons. Le sentiment océanique est comme un espoir lumineux face au malheur de ses patients. Va s'en suivre une correspondance passionnée entre Zygmunt et Romain, entre l'inventeur de la psychanalyse et l'écrivain à la recherche d'une nouvelle spiritualité.
Le courant t'emporte, j'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore. Nos corps qui se balancent, tu manges contre danse, et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt. Se meurt sous les étoiles. J'entends ta voix crier. Souffle tiède, c'est informel. La scène est belle. Je ne te quitte plus. Ça, c'est bien moi. S'acharne encore, nos corps qui se balancent, tu manges contre danse, et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt. Se meurt comme des enfants, on jette des mots. Au fond de l'eau, on sort, on veille, on s'émerveille. Les mois défilent, c'est plus fragile. On s'accapare, nos rires s'égarent, sans écho. Le courant t'emporte, j'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore, nos corps qui se balancent, tu manges contre danse, et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt.
Christophe the Genius qui répondait au sentiment océanique de Romain Rolland avec sa chanson « Océan d'amour ». Le sentiment océanique n'est-il pas un avatar de ce qu'exprimaient les Égyptiens de l'Antiquité en parlant de l'océan primordial dont nous sommes issus et dans lequel nous retournons, l'océan primordial incarné par la déesse Nout. Nout est représentée dans les tombeaux d'Égypte sur les couvercles des sarcophages, car celle qui a donné la vie une première fois va recueillir l'âme du défunt dans l'au-delà pour lui donner une seconde naissance. C'est la divinité la plus importante du panthéon égyptien, la source de vie, la mère du monde créé et du monde de l'au-delà. On pourrait donc dire que Dieu est une femme chez les Égyptiens qui ont plusieurs longueurs d'avance sur la parité.
Pas une seule femme ne peut représenter la femme. Pour la dire toute, il faudrait toutes les femmes.
Au début de l'humanité, les premières sociétés sont souvent matriarcales. En effet, seule la femme a le pouvoir de donner la vie. C'est pourquoi elle est une des premières représentations divinisées. À l'époque paléolithique, il y a 40 000 ans, les premières statues représentent des femmes, comme la Vénus de Hohlefels dans le sud de la Bavière. Ces statues de divinités féminines ont souvent les mêmes caractéristiques. Un bassin très large, de grosses fesses, un sexe énorme et des bras et des pieds à peine suggérés. Ce que Jean-Pierre Duhart, gynécologue et anthropologue français, appelle le privilège abdominopelvien. Bras et jambes ne sont souvent qu'ébauchés ou absents et la tête est souvent réduite et dépourvue de détails anatomiques. Il est évident que ce sont les qualités de la procréation qui sont vénérées à travers ces statues. Le lien entre l'acte d'engendrer et celui de la conception n'arrive que tardivement dans l'histoire de l'humanité. Dans beaucoup de sociétés premières, on pense que l'enfant est engendré par un esprit. L'esprit de la source, du fleuve ou l'esprit de l'arbre.
Il faudrait songer à faire une leçon d'éducation sexuelle à l'usage des Égyptiens.
Il y a une fille, elle a une zazette, et un garçon a un zizi.
Alors, les garçons, c'est le pénis, et la fille, c'est quoi ?
La bichette.
Non, ça, c'est
la chatte.
Pour la fille, on va appeler ça la vulve.
Note pour les Égyptiens. Non, nous ne pouvons pas féconder un arbre.
Un soir, quand j'étais tout seul avec maman, je lui ai posé « Comment tu m'as fait ?» Et elle n'osait pas dire comment elle a fait, alors elle m'a dit qu'il y avait une petite graine et quand on s'embrassait, la petite graine passait de la bouche à l'autre bouche et que ça allait faire l'enfant.
Non, il n'y a pas de graine, ni de chou, ni de cigogne dans l'histoire de la reproduction.
Ils font l'amour.
Tu sais ce que ça veut dire, faire l'amour ?
Bah, tu fais l'amour, le pénis rentre dans le vagin.
Mesdames et messieurs les Égyptiens, la leçon a-t-elle été bien comprise ?
Le conte égyptien de Bata, en 1200 avant Jésus-Christ, recueilli sur un papyrus exposé au British Museum, raconte l'histoire de deux frères, Bata et Anubis, opposés par le mensonge d'une femme. La femme d'Anubis, ayant tenté en vain de séduire Bata, se plaint à son mari des avances de celui-ci et le pousse à tuer son cadet. Bata est transformé en arbre. Un éclat de son écorce jeté dans la bouche de la reine d'Égypte va la féconder, assurant ainsi sa réincarnation.
She talks. You're written in her book.
course everybody knows.
She's a fin
fatale. The things she does to please.
She's a fin fatale.
She's just a little tease.
Dites André, est-ce que les notes ont un sexe ? Est-ce qu'il y en a qui ont des zizi et puis d'autres des zézettes ?
Oui Elsa, eh bien, vous évoquez le principe masculin et le principe féminin en musique. Eh bien oui, ça existe. Le principe masculin, on va dire que c'est le principe majeur. Voilà, on va partir encore de cet accord parfait majeur qui impose finalement une tonalité qui est un... aimant qui ramène toutes les notes à lui, donc on va dire que c'est un principe plutôt fort. Et puis on va lui opposer un principe plus romantique et plus doux. Tout d'un coup, voilà l'accord mineur, donc une seule note diminuée d'un demi-ton, une petite note, 7/7 encore une fois, va transformer un principe masculin, plutôt viril et plutôt martial, en principe féminin, plus doux, plus romantique. Avec une petite pointe de nostalgie. Alors, au-delà de l'harmonie, il y a aussi dans la manière de jouer naturellement des intentions viriles et des intentions féminines. Les intentions viriles, je ne vais pas vous faire le gars qui joue fort et le gars qui joue doucement, dans l'agencement des notes elles-mêmes. On pourrait distinguer un principe féminin d'un principe masculin. Le principe féminin, ce serait que les notes soient conjointes, c'est-à-dire qu'elles soient le plus près les unes des autres, avec un écart de un ton maximum. A contrario, le principe masculin, ce serait de séparer les notes par des intervalles. L'appel de carte est un appel martial. Pratiquement que des intervalles dans notre Marseillaise. On va revenir au principe harmonique. Si je suis en majeur, et si j'enchaîne des accords majeurs, je suis dans quelque chose, encore une fois, de très viril. A contrario, si je fais le même enchaînement avec des accords mineurs, je suis dans quelque chose de beaucoup plus doux. Je vais jouer une mélodie maintenant, dans un mode majeur. On va dire que cette mélodie, je vais la jouer sur un principe masculin. Je vais la prendre la plus simple possible. Maintenant, la même mélodie avec la tierce mineure prend un caractère complètement différent. Voilà le côté masculin de ma mélodie. Et voilà la même mélodie vue du côté féminin. Et vous voyez que l'alternance des deux crée une polarité, crée une tension et crée surtout comme un dialogue. Les classiques utilisaient beaucoup ça dans une forme sonate. Maintenant, je reconsidère mon accord de Do majeur. Il a ce qu'on appelle une relative mineure. Sa relative mineure, c'est l'accord de La mineure qui est juste en dessous de lui d'une tierce. Je prends mon Do, je le descends d'une tierce mineure, j'ai mon La, et là j'ai un accord qui est majeur, mais qui a les mêmes notes pratiquement, La, Do, Mi, et si je fais une extension jusqu'à la septième, La, Do, Mi, Sol, et là si je fais mon accord de Do, j'ai Do, Mi, Sol, Do, donc j'ai le correspondant mineur de mon accord de Do majeur, ça va être ce qu'on appelle sa relative mineure, encore une fois, le La mineur. Je vais dire un thème maintenant en Do majeur, extrêmement simple. Maintenant, je vais dire la même chose en La mineur. Je recommence, en ré cette fois-ci. La même mélodie, mais simplement transposée dans la relative mineure, encore une fois, va créer un dialogue. C'est carrément... Prenez trois petites notes toutes bêtes. Ré, mi, sol, par exemple. Et puis maintenant, vous les transposez dans la relative mineure. Et voilà le début d'une ligne mélodique qui a du sens, puisque c'est comme un appel, encore une fois, et sa réponse. Je continue le principe. Vous voyez que si on mélange harmonieusement le masculin et le féminin, on obtient une mélodie qui a sa propre dynamique, qui raconte une histoire très belle. Regardez, je vais vous jouer une mélodie juste en majeur. Ben, c'est pas beau. Ça sent la sueur, là, on est d'accord. Maintenant, je mélange les deux. Je transforme en majeur. Voilà, c'est de ce contraste entre ces deux accords que naît une tension psycho-érotique. Sali Kasani Duguda C'est Cuba Bambino, It's a Man, Man's World, la reprise de James Brown.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Françoise Nourricier, anthropologue, élabore un scénario sur les rapports entre hommes et femmes dans les sociétés premières. Les hommes, pense-t-elle, se sentent amoindris du fait qu'ils ne peuvent pas se reproduire directement par leur corps, comme le font les femmes. D'autant que pendant longtemps, ils ne vont pas faire le rapport entre l'accouplement et le fait d'engendrer un enfant. Qu'une femme donne vie à une fille, ça leur semble tout à fait normal. Dans beaucoup de sociétés premières, on pense que si les hommes n'intervenaient pas, les femmes feraient quand même des filles. Par contre, eux, les hommes, ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas donner naissance à des garçons, comme les femmes le font avec des filles. Aussi, quand les femmes accouchent de garçons, petit à petit, va naître l'idée qu'ils y sont peut-être pour quelque chose. Pour qu'une créature avec un zizi sorte d'une créature qui n'en a pas, il y a fatalement un zizi quelque part responsable de cet état de fait, se dit Homo erectus. Il est donc possible de forcer le bon vouloir féminin pour faire des fils. C'est avec cette idée que la femme devient précieuse et que l'homme va vouloir se l'approprier.
Il eût été un monde où Ève avait le pouvoir sur Adam ? Non, pas possible.
Il aurait existé un matriarcat primitif, c'est-à-dire une sorte de règne des femmes, justifié par leur fonction reproductrice.
Je repense à ma mère, et à la mère de ma mère, et à la mère de la mère de ma mère.
Je pense à un monde où reine-mère évoquerait autre chose que la reine-mère Elisabeth.
Et à sa mère.
Le mot matriarcal, matrimonium, ça veut dire en effet gouvernement par les mères, hein. Ça, on peut dire qu'on n'en est jamais sorti. Nous, les hommes, sommes dépendants de la mère fondamentalement. Originellement, originairement, je ne crois pas que nous soyons jamais sortis du matriarcat fondamental.
Bah, pourtant, Mahomet, Jésus-Christ, Napoléon, Bouddha, Giscard d'Estaing, ils n'avaient pas d'utérus.
Nous savons déjà qu'il n'y a pas de civilisation proprement matriarcale. Au fond, une société est toujours une société d'hommes, d'hommes qui échangent les femmes entre eux et qui s'unissent par le moyen et grâce à l'intermédiaire de ces femmes.
Le pouvoir politique des femmes, ce serait plutôt une gynécocratie qu'un matriarcat.
Conclusion, on ne peut pas se passer du vagin de la femme, mais il n'est jamais au pouvoir.
Auparavant, on s'accouplait au hasard des rencontres. Dans les temps préhistoriques, une belle se penche sur la rivière pour boire de l'eau, offrant sa croupe au regard, hop, un mâle la prenait. Ça s'appelait faire un trump. Mais Erectus est maintenant persuadé que pour avoir un fils à soi, il lui faut garder la mère. Et de ce fait, il l'interdit aux autres. La femme devient un bien d'échange. Ceux qui la possèdent, un père, un frère, peuvent la donner selon leur bon vouloir à d'autres hommes. Et désormais, quand une femme appartient à un homme, elle est intouchable par les autres. C'est ainsi qu'on passe du matriarcat au patriarcat et que la femme devient la gardienne du foyer quand les hommes partent à la chasse.
Living.
Voilà, malgré le passage au patriarcat, l'empreinte féminine des temps du début va perdurer chez les Égyptiens. L'énergie féminine va être une composante majeure dans leur panthéon, à travers Nout, la déesse du ciel, et Isis qui ramène Osiris du royaume des morts. Cette figure de grande mère donnera plus tard chez les chrétiens la figure de Marie. Voilà, cette émission était enregistrée par notre sœur Juliette Delperroux. Elle était réalisée par notre mère Fanny Beauhuon. La voix de l'espace était notre belle-sœur Elsa Denac. Et enfin, mise en musique par notre cousine Muriel Pérez. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.